Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce dimanche 20 juin. Avec vous, Jean-Noël Ducasse pour une heure en français. Au sommaire, le journal, les sports, le personnage de la semaine. Et on parlera aussi de racisme et de délinquance. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce 20 juin, alerte en Nouvelle-Galles du Sud avec au total 9 cas de Covid dans le cluster de Bondi. Le Queensland a un seul nouveau cas de Covid au sein de la communauté et dans le Victoria, aucun cas de Covid à signaler au sein de la communauté. Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud impose certaines restrictions concernant le coronavirus après que l'État a détecté ce dimanche 2 autres cas de Covid. L'État a déjà confirmé qu'un homme âgé d'une trentaine d'années avait été infecté et maintenant un contact familial de ce cas a également été testé positif. 2 autres infections ont été signalées dans la nuit, une femme et un homme dans la cinquantaine. La chef de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a déclaré que les masques seraient désormais obligatoires à l'intérieur dans cette zone de l'État.
We have to make sure we're not complacent. We have to make sure that we are complying to what we're asking you to do. Please, we don't want to have to extend to further restrictions unless we absolutely have to.
Le Queensland a enregistré un seul cas de coronavirus, une personne qui est entrée en contact avec une personne infectée par la variante Delta lors d'un vol. La personne a quitté la quarantaine de l'hôtel, s'est rendue dans un appartement, puis s'est dirigée vers l'aéroport, déclenchant une alerte pour les autres personnes ayant visité les mêmes sites hier. Le médecin en chef, la docteure Janet Young, a déclaré que le cas, un membre d'équipage, est arrivé à Brisbane le 5 juin dernier en provenance de Dubaï.
There was a passenger who tested positive with the Delta variant and she was a contact of that passenger. So that's the most likely source, but we'll find that out when we get the whole genome sequencing back. But that's why I'm assuming that it is Delta and that's why I'm taking this very very cautious approach.
Aucun nouveau cas de coronavirus dans le Victoria après quelque 19 502 tests au cours des dernières 24 heures. Il n'y a pas de restriction de voyager à travers le Victoria, mais les masques doivent toujours être portés à l'intérieur. L'État a également détecté 2 nouveaux cas de Covid acquis à l'étranger et aucun autre site d'exposition n'a été répertorié. Entre-temps, le gouvernement de l'État a déclaré avoir fermé 7 entreprises pour ne pas avoir respecté les règles sanitaires. L'opposition fédérale affirme que le gouvernement n'a pas réussi à négocier suffisamment d'accords sur les vaccins pour le déploiement pour essayer de mettre fin à la pandémie de COVID-19. Les directives sanitaires pour le vaccin AstraZeneca ont changé. Le gouvernement conseillant aux personnes de moins de 60 ans de recevoir le vaccin Pfizer à la place en raison des rares caillots sanguins. Le porte-parole du Labour sur la santé, Mark Butler, a déclaré sur Sky News que bien que personne n'aurait pu prédire les effets secondaires des caillots sanguins d'AstraZeneca, le gouvernement aurait pu faire davantage.
There is a lot of confusion. This will, I think, be a further break on a vaccine rollout that is already desperately behind schedule. This vaccine rollout, have no doubt, is in deep trouble.
À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés ce dimanche, les Nations unies appellent à une plus grande inclusion des réfugiés dans les systèmes de santé, de l'éducation et du sport. L'organisation appelle également pour que les réfugiés aient un accès égal à l'éducation, au travail et aux vaccins contre le Covid-19 dans le monde entier et dans leur pays d'accueil. Kate Blanchett, l'actrice australienne lauréate d'un Oscar et ambassadrice de bonne volonté du HCR, a déclaré que l'incertitude autour du Covid-19 devrait inciter le monde à sympathiser avec les réfugiés.
So I think that there's a kind of an opportunity to in a very compassionate way, as we, you know, embrace World Refugee Day, to think about how we have felt, those of us who are not, who are fortunate not to be a refugee, how we have dealt with uncertainty, and perhaps to sort of place ourselves in the shoes of mothers and fathers and doctors and lawyers who have been, through no fault of their own, displaced.
Tarnica Murugappan, âgée de 4 ans, est sortie d'un hôpital de Perth ce week-end après avoir souffert d'une infection du sang. Elle et sa famille tamoule ont commencé leur détention au sein de la communauté, mais insistent sur le fait qu'ils veulent retourner vivre à Bilola, dans le Queensland. La semaine dernière, le ministre fédéral de l'immigration a autorisé la famille à vivre à Perth pour le moment et a déclaré que sa position sur la protection des frontières n'avait pas changé. Des Australiens se sont réunis lors de veillées pacifiques pour manifester leur soutien à la famille et demander au gouvernement fédéral de les laisser retourner à Bilola, au Queensland. En France, le premier tour des élections régionales avec l'abstention qui fait craindre, selon les instituts de sondage, 6 sur 10 Français n'iront pas voter. Aurélien Devernois pour Radio France Internationale.
Il y a bien évidemment le Covid qui a perturbé la campagne électorale, limitant les meetings porte à porte et autres réunions publiques. Mais selon Céline Braconnier, auteure de La démocratie de l'abstention, la désertion des urnes est désormais une habitude bien ancrée.
L'abstention tend à augmenter depuis une vingtaine d'années pour tous les scrutins et avec une accentuation de la démobilisation depuis 2017. Il y a une méfiance vis-à-vis de la politique, un scepticisme de plus en plus marqué par rapport à l'idée que la politique pourrait changer la vie des gens, qui fait perdre son sens au déplacement vers les urnes.
Autre problème, le fossé qui se creuse entre les partis politiques et les citoyens qui se mobilisent, gilets jaunes ou marche pour le climat. Résultat, les jeunes et les classes populaires se déplacent de moins en moins pour soutenir un parti, à une exception près, selon le politologue Benjamin Morel, le Rassemblement National.
C'est un électorat qui se mobilise plus qu'à son habitude pour des élections intermédiaires, avec un électorat plutôt populaire qui généralement est plutôt abstentionniste. Ça peut signifier que c'est un électorat qui est susceptible d'arriver en masse aux urnes en 2022.
Et c'est d'ailleurs bien le pari de Marine Le Pen, remporter une ou plusieurs régions pour encore élargir son électorat en vue de la présidentielle.
Ce premier tour des élections régionales va désigner 1757 conseillers régionaux et 4108 conseillers départementaux. Valérie Gasse, RFI.
Les conseillers régionaux et départementaux bénéficient tous de mandats de 6 ans, mais le mode de scrutin est différent. Les conseillers régionaux sont élus à la proportionnelle sur des listes paritaires dans 12 régions métropolitaines auxquelles s'ajoutent la Guadeloupe et la Réunion. Les listes sont régionales, mais les candidats se présentent dans des sections départementales. Pour accéder au second tour, les listes doivent obtenir 10% des suffrages exprimés au premier tour. La liste qui arrive en tête obtient une prime majoritaire de 25% des sièges. Les listes qui ont obtenu plus de 5% des voix se répartissent le reste des sièges. Aux élections départementales anciennement cantonales, ce sont des binômes femmes-hommes qui se présentent. Le scrutin est majoritaire. Seul le binôme qui arrive en tête est élu. Pour accéder au second tour, il faut obtenir au premier tour le vote de plus de 12,5% des inscrits. À Paris et dans la métropole de Lyon, on ne vote que pour les régionales car le conseil municipal et la métropole exercent les compétences départementales. En Corse, Martinique et Guyane, en vertu de leur statut, ce sont des élections territoriales régies par des règles équivalentes à celles des régionales.
En Iran, Ebrahim Raisi a remporté l'élection présidentielle avec quelque 62% des voix au premier tour. Et nous reviendrons largement sur le portrait de ce nouveau président iranien dans notre série Personnages avec Émile Matasso tout à l'heure dans l'émission après le journal des sports. En Israël, c'est la sonnette d'alarme avec l'élection de ce nouveau président iranien. Précision de Michel Paul pour RFI.
La réaction du ministre israélien des Affaires étrangères est venue très vite. Pour Yair Lapid, le président élu iranien est un extrémiste responsable de la mort de milliers de ses compatriotes. Il est déterminé à mener à bien les ambitions nucléaires de son pays, ajoute le nouveau chef de la diplomatie israélienne. Un communiqué du ministère israélien des Affaires étrangères indique encore que plus que jamais, c'est le programme militaire nucléaire iranien qui doit être stoppé de manière immédiate. Des responsables militaires israéliens cités par les médias ici affirment sous couvert d'anonymat qu'il n'y aura pas d'autre choix désormais que de préparer des plans pour contrer directement le programme nucléaire iranien. Cela nécessitera des budgets et aussi une réaffectation des ressources, indiquent ces mêmes sources sans autre précision. Et selon le quotidien Haaretz, d'autres responsables sécuritaires tirent la sonnette d'alarme. Ils affirment que le nouvel accord nucléaire qui se prépare est de loin pire que son prédécesseur.
L'autorité palestinienne annule l'accord avec Israël concernant les vaccins anti-Covid. Les doses de vaccins Pfizer reçues de l'État hébreu vont bientôt expirer, selon les Palestiniens. Explication Alice Froussard, RFI.
Le porte-parole de l'autorité palestinienne a été clair. Après l'examen du premier lot de vaccins Pfizer au sud d'Israël, il a été découvert qu'il n'était pas conforme aux caractéristiques prévues par l'accord. Je cite « Le gouvernement refuse donc des doses en passe d'être périmées », insiste-t-il lors de la conférence de presse, alors que déjà 90 000 doses avaient été reçues et sont sur le point d'être rendues. La date exacte de péremption n'a pas été précisée par l'autorité palestinienne, mais l'accord incluait des doses encore valables en juillet et en août. Et sur les réseaux sociaux, de nombreuses photos de doses de vaccins périmant en juin ont été partagées. En tout cas, les critiques sont vives ici, en Cisjordanie occupée. Beaucoup accusaient déjà le gouvernement palestinien de cet accord sur le fait d'accepter des vaccins de qualité inférieure, suggérant qu'ils pourraient ne pas être efficaces. D'autres critiques évoquent un accord pas si charitable que prétendu, je cite, ne traitant pas des problèmes fondamentaux qui empêchent un système de santé fonctionnel. Enfin, certains pointent du doigt le fait que cet accord était de toute façon dans l'intérêt d'Israël, je cite, pour que l'État hébreu récupère les nouvelles doses destinées aux Palestiniens en octobre.
Les Américains ont célébré hier, samedi 19 juin, Juneteenth, la fête du 19 juin, qui marque la fin de l'esclavage dans le pays. Cette journée est célébrée comme une fête nationale grâce au vote du Congrès il y a quelques jours. Reportage Lubna Anaki pour RFI.
À Harlem, Juneteenth était déjà célébré chaque année. L'occasion, comme aujourd'hui, de se retrouver en famille, danser, manger, rendre hommage à l'histoire des Noirs aux États-Unis. Ici, on salue l'adoption du 19 juin comme fête nationale.
Ça aurait dû être fait il y a longtemps déjà.
Les gens reconnaissent enfin cet événement que la communauté noire fête depuis des années. Et maintenant, le reste du pays sait, et peut-être même que certains sauront enfin ce que cette journée représente vraiment.
Juneteenth marque la fin effective de l'esclavage en 1865, 2 ans et demi après son abolition par Abraham Lincoln. À l'époque, la guerre de sécession fait que la nouvelle de la fin de l'esclavage met 2 ans et demi à arriver dans les États sudistes. Si l'ambiance est à la fête aujourd'hui, certains estiment qu'il faut plus que des gestes symboliques, surtout à l'heure où le droit de vote des minorités est menacé dans certains États républicains.
On doit continuer à nous battre, on ne peut pas s'arrêter à cette petite victoire. Il faut continuer pour obtenir ce qu'on mérite et préserver nos droits de vote partout.
Deux élus se sont joints aux célébrations dans ce parc de Harlem, le maire Bill de Blasio et le sénateur new-yorkais Chuck Schumer, lequel a renouvelé son engagement pour la lutte contre le racisme et la protection des droits civiques.
Des membres de la communauté LGBTQI en Pologne ont participé à un défilé pour l'égalité après une pause de 2 ans sur les événements de fierté en raison de la pandémie. Le maire de Varsovie a assisté au défilé de la fierté pour montrer son soutien, tandis que le parti populiste au pouvoir en Pologne a généralement poussé les politiques conservatrices. Écoutez Karolina Kejdziora de l'association polonaise de droit anti-discrimination contre les opinions de haine et d'exclusion véhiculées dans les médias.
Sometimes one statement made by a politician in the state-owned media has such an effect that the next day, organizations like mine, those defending the rights of the LGBT community, receive reports of people being attacked.
On passe à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 19 degrés. Adélaïde, 16. Melbourne, 15. Hobart, 12. Canberra, 14. Sydney, 17. Brisbane, 22. Cairns, 25. Darwin, 31. Et à Alice Springs, maximale de 18 degrés. Un rappel des grands titres de ce 20 juin, alerte en Nouvelle-Galles du Sud avec au total 9 cas de Covid dans le cluster de Bondi. Le Queensland a enregistré un seul nouveau cas de Covid au sein de la communauté et dans le Victoria, la bonne nouvelle, aucun cas de Covid à signaler. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Des sports de ce dimanche avec tout d'abord l'Euro de foot avec la France et la Hongrie qui ont fait match nul, un but partout. Antoine Grenier et Thomas de Saint-Léger pour Radio France Internationale.
C'est donc dans cette incroyable ambiance que l'équipe de France est tombée sur un os.
Ouais, une ambiance survoltée, hein, comme les Bleus n'en ont vraisemblablement plus connu depuis le 8e de finale de Coupe du Monde contre l'Argentine à Kazan à l'époque, dans un stade largement acquis à la cause de l'Albicéleste. Les Bleus l'avaient emporté, bah cette fois, ils ont coincé la faute à leur propre maladresse offensive, on y reviendra. La faute aussi à un réalisme tranchant côté hongrois, des Hongrois qui ont marqué sur leur seule occasion de la première période. Et pour Antoine Griezmann, le buteur français, bah, les raisons de la contre-performance française étaient nombreuses.
Je sais pas, je suis cuit. De tout. C'est super chaud. L'ambiance. C'est la première fois avec un match avec le stade plein. Et ça change nos habitudes. On s'entend pas. Voilà, terrain sec. La fatigue par rapport au dernier match. Ça me rappelle un peu la Coupe du Monde. On a souffert pendant les poules, mais voilà, on savait que c'était pas une poule facile et maintenant il va falloir vite se reprendre, se reposer et après aller gagner contre le Portugal.
Rien de dramatique en termes de classement puisque les Bleus sont ce soir premiers avec 4 points. Si la qualification est pas dans la poche comme espéré, elle est malgré tout toute proche et très largement à portée de main. Il faudrait une catastrophe industrielle pour que les Bleus ne voient pas les huitièmes de finale.
Mais clairement Antoine, les promesses entrevues face à l'Allemagne n'ont pas été tenues et Karim Benzema a nouveau déçu.
Oui, déjà pas flamboyant contre l'Allemagne, l'attaquant madrilène est l'auteur d'un énorme raté à la demi-heure de jeu qui pourrait le poursuivre encore longtemps. Cette frappe tout seul au point de pénalty sur une passe lumineuse, presque en aile de pigeon de Kylian Mbappé, et Benzema la met à côté. Ça aurait pu coûter très cher aux Bleus. C'est finalement Antoine Griezmann d'ailleurs qui sauve les Français en étant au bon endroit dans la surface après un centre fort de Mbappé. Encore lui, centre repoussé par Orban, une égalisation qui vaut cher pour des Bleus. Loin d'être l'équipe tout en maîtrise du match contre l'Allemagne. Paul Pogba et Adrien Rabiot n'ont pas régné en maître sur le milieu de terrain, loin s'en faut. Et puis défensivement.
Dans les autres matchs, l'Espagne et la Pologne ont fait match nul, un but partout. L'Allemagne a écrasé le Portugal, 4-2. On écoute Marco Tomis qui analyse ce match avec Thomas de Saint-Léger pour RFI.
Le navire portugais a tout simplement pris l'eau en défense. Les attaquants, les milieux, même les latéraux allemands sont entrés dans la défense avec une facilité déconcertante par les côtés. Ni Rafael Guerreiro, le joueur portugais né en région parisienne et auteur d'un but contre son camp, ni Nelson Semedo n'ont été capables de tenir leur rôle. Tantôt trop avancés, tantôt en retard sur les joueurs qu'ils avaient au marquage, rien n'a été lors de ce match. Et puis ce manque de sérénité a gagné toute la défense. Ruben Dias et Pepe au centre et Rui Patricio le gardien. Sur le premier but, Rui Patricio ne sort pas assez rapidement pour attraper le ballon et Ruben Dias reste statique devant Kai Havertz qui le pousse à la faute car c'est le Portugais qui finit par mettre le ballon au fond des filets. Et cela a été le déclic pour un match catastrophique. Les fautes de positionnement, d'agressivité se sont fait sentir et aucune réaction a été visible. Même les deux milieux défensifs, Danilo qui joue au Paris Saint-Germain et William Carvalho qui était censé stabiliser le jeu, ont été complètement dépassés.
Et puis le feuilleton de bouteilles de coca et de bière écarté lors des conférences de presse de Ronaldo et de Pogba cette semaine, continue à marquer l'actualité de l'Euro. Bruno Faure pour RFI.
Avec plus de 540 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo sait l'impact des messages qu'il fait passer. L'UEFA aussi et a décidé, après réflexion, de rappeler CR7 à ses obligations. Les partenariats, affirme l'instance européenne, sont destinés à assurer l'organisation de l'euro et le développement du football sur le continent, en ajoutant notamment pour la jeunesse et pour les femmes. Faute de sanctions, voilà donc une contre-offensive médiatique pour éviter que d'autres stars imitent Ronaldo, comme l'ont fait Paul Pogba et l'italien Locatelli. Halte au phénomène de mode qui écornerait l'image des sponsors Coca et Heineken, dont les contrats valent 67 millions d'euros, restent pour le moment silencieux. Quelques joueurs comme les Britanniques Harry Kane et Marcus Rashford, qui sont en contrat avec Coca, ont décidé de s'opposer au quintuple ballon d'or. L'Ukrainien Yarmolenko, lui, a décidé d'en rire et en conférence de presse de lancer un appel du pied aux marques de boissons. Appelez-moi.
On passe en Afrique avec le Sierra Leone qui a obtenu le dernier ticket pour la prochaine CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, prévue du 9 janvier au 6 février prochain au Cameroun. Et c'était aux dépens du Bénin. Éric Chorin, Radio France Internationale.
Un 24e ticket pour la CAN que les Leone Stars ont décroché hier en battant le Bénin 1-0 à Conakry. Un penalty transformé par Kai Camara dès la 19e minute du match face aux écureuils. Après avoir été reporté il y a 6 semaines, la rencontre avait de nouveau été décalée de 24 heures hier à chaque fois parce que plusieurs joueurs auraient été contrôlés positifs. Béninois il y a 6 semaines à Freetown, Sierra Leone lundi en Guinée où le match a été délocalisé. Mais cette fois, le match a bel et bien eu lieu. C'est donc la fin d'un triste feuilleton qui aura terni l'image de la CAN et une première qualification des Leone Stars en phase finale depuis 1996. Pour le Bénin, en revanche, c'est là des illusions, puisqu'un nul leur suffisait aux Béninois pour se qualifier. Le sélectionneur Michel Dussuyer assume.
On avait encore la possibilité aujourd'hui, avec un nul, de passer. On n'est pas très bien entré dans cette rencontre. On concerne un pénalty qui m'apparaît très sévère, même si je n'ai pas revu les images. Après, on sait que cette équipe sierra-léonaise, elle est rugueuse, elle défend bien et que c'est difficile de leur marquer des buts. Et on a essayé de pousser de plus en plus, mais on a eu quelques opportunités qu'on n'a pas concrétisées. Donc à partir de là, il nous fallait absolument ce but et on n'a jamais pu le mettre au fond. Ça s'est joué sur le terrain. Donc c'est vrai que les reports successifs n'ont pas aidé à une bonne préparation et une bonne expression des joueurs, mais la Sierra Leone était exactement dans la même situation que nous. Donc je ne vais pas me retrancher derrière cet argument-là. Aujourd'hui, on n'a pas été très très bon. Donc voilà, c'est de notre responsabilité.
Beaucoup de regrets ?
Il y en a toujours quand on ne se qualifie pas.
L'avenir ?
On verra.
Michel Dussuyer répondait à Félix Soundé, Pépé Ripé, la CAN au Cameroun, sans le Bénin, mais avec la Sierra Leone, tirage au sort lors de la première quinzaine d'août.
On passe au rugby avec le top 14 en France et La Rochelle qui s'est qualifiée vendredi pour la finale et qui jouera Toulouse en finale la semaine prochaine. Toulouse qui a battu Bordeaux hier, Thomas de Saint-Léger et Marie-Amélie Motte pour RFI.
Toulouse rejoint donc La Rochelle en finale après un match disputé face au Bordelais.
Oui, ça a commencé très fort. Première minute, première attaque et premier essai inscrit dans la foulée par Romain Ntamack. Après une pénalité de Thomas Ramos, Toulouse menait 8-0 au bout de 11 minutes. Bordeaux est rapidement revenu au score grâce à un essai de Ben Lam transformé par Mathieu Jalibert. Et ensuite, beaucoup de fautes et d'approximations côté Bordelais. Avantage Toulouse à la mi-temps 14-7. Mais au retour des vestiaires, les hommes de Christophe Furios sont passés devant, notamment grâce à un nouvel essai de Ben Lam. 15-14 pour Bordeaux jusqu'au tournant du match. Le carton rouge du centre bordelais Ouloupano Seuteni à la 58e minute pour un choc très violent, tête contre tête avec Romain Ntamack. Le numéro 10 toulousain KO pendant quelques minutes et évacué sur civière. À 14 contre 15, Bordeaux n'a pas pu résister. Le stade s'est finalement imposé 24-21. Une victoire très difficile, comme le reconnaissait Antoine Dupont. Le demi-mêlé toulousain, on l'écoute au micro de nos confrères de Canal+.
On s'attendait à ce gros combat de la part des Bordelais. On savait que sur les premières dizaines de minutes du match, ça allait taper fort. C'est ce qui s'est passé avec un ballon glissant, avec l'humidité du stade. Ça n'a pas été évident. Ils nous ont mis en échec. On a eu du mal à prendre cette ligne d'avantage. Franchement, là, pendant tout le match, ça a été laborieux un peu de notre part. Mais voilà, on ne va pas cracher dans la soupe. On est hyper content ce soir.
Et oui, hyper content parce que Toulouse peut remporter le 21e titre de son histoire en top 14. Ce sera donc vendredi prochain au Stade de France face à La Rochelle, vainqueur du Racing 92 hier. Toulouse-La Rochelle, le remake de la finale de la Coupe d'Europe, remporté 22-17 par Toulouse il y a moins d'un mois. La Rochelle va donc vouloir prendre sa revanche. Et c'est la première fois que la Coupe d'Europe et le top 14 se terminent avec la même confrontation en finale. Comme il y a deux ans, ce sont les deux meilleures équipes de la saison régulière du top 14 qui se retrouvent à la fin. Alors première finale pour La Rochelle, novice à ce niveau. Et ce sera la quatrième opposition entre les deux équipes cette saison, Toulouse et La Rochelle. Trois matchs, trois victoires toulousaines pour l'instant.
On passe au tennis. La finale du tournoi de Queens aura lieu ce dimanche entre l'Italien Berrettini et Norrie, le Britannique. À Halle, ce sera le Français Humbert contre le Russe Rublev. À Berlin, chez les dames, la Suisse Bencic rencontrera Samsonova, la Russe. Et à Birmingham, en Angleterre, Jabeur, la Tunisienne, jouera contre Kasatkina, la Russe. Et puis, pour rappel, que l'Espagnol Rafael Nadal et la Japonaise Naomi Osaka ont déclaré forfait pour le tournoi de Wimbledon de cette année. Le Grand Prix de Formule 1 de France, c'est ce dimanche avec Max Verstappen, le Néerlandais, qui partira en pole position. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Eh bien, comme chaque dimanche, nous revenons sur un événement marquant de l'actualité et une personnalité qui lui est associée. Pour en parler, nous sommes avec Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
Focus aujourd'hui sur l'élection présidentielle en Iran et l'élection d'Ebrahim Raisi.
Il a remporté, oui, l'élection présidentielle qui se tenait en Iran ce vendredi 18 juin. Les résultats provisoires ont été publiés ce samedi, mais ils ne font aucun doute. Ebrahim Raisi, âgé de 60 ans, va succéder à Hassan Rouhani. Il est élu dès le premier tour, recueillant environ 62% des suffrages. Cette élection, Ebrahim Raisi, il était attendu hein, comme le principal candidat favori de cette présidentielle, on va y revenir. C'est donc tout sauf une surprise dans la mesure où les trois autres candidats qui lui faisaient face n'étaient là que pour légitimer le scrutin. En quelque sorte, hein, Mohsen Reza du Front islamique de résistance iranienne arrive en deuxième position avec un peu plus de 11% des suffrages, 8% pour Abdel Nasser Ermati et 3% pour Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi. D'autres auraient aimé se présenter à cette élection présidentielle, hein, mais les principaux leaders dits réformateurs ont été écartés du scrutin, leur candidature a été rejetée, de même que l'ancien président du pays, l'ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad, qui a lui dirigé la République islamique d'Iran de 2005 à 2013. Tout a été préparé, pensé en amont de cette présidentielle, en fait par le guide suprême Ali Khamenei, le guide de la révolution en Iran, qui a un rôle plus important encore que le président de la République. Hein. Le guide suprême, c'est le plus haut responsable politique et religieux du pays et rien ne peut se faire sans lui. Depuis la révolution islamique en Iran en 1979, deux guides suprêmes seulement se sont succédés. Il y a eu l'ayatollah Khomeini de 1979 à sa mort en 1989. Et depuis 1989, il y a donc depuis 32 ans maintenant, Ali Khamenei, aujourd'hui âgé de 86 ans, le guide de la révolution, qui lui n'est pas élu au suffrage universel, hein, contrairement au président de la République, mais désigné par l'Assemblée des experts. Finalement, c'est un peu comme si le guide suprême était le chef de l'État et que le président de la République, qui vient donc d'être élu, Ebrahim Raisi, était lui le premier ministre qui allait gérer les affaires courantes. En tout cas, pour devenir président, comme c'est le cas pour Ebrahim Raisi, cela ne peut pas se faire, même si l'élection est au suffrage universel et donc démocratique, cela ne peut pas se faire sans l'aval, sans l'assentiment du guide suprême. Ebrahim Raisi avait été battu par Hassan Rouhani en 2017 à la présidentielle. Hein. Les Iraniens avaient décidé bien de reconduire Hassan Rouhani pour un second mandat. Ebrahim Raisi qui est élu pour 4 ans, mais cette élection présidentielle, elle n'a pas déplacé les foules. Le taux de participation, il tourne autour de 50%, pas plus, et c'est un désaveu pour les autorités religieuses du pays. Les Iraniens semblent avoir voulu signifier bien qu'ils boudaient ce scrutin, joué d'avance et sans candidat indépendant ou réformateur.
Ce nouveau président iranien, qui est-il? Quel est son parcours politique?
Bien, c'est un ultra-conservateur très proche donc du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Les observateurs de la vie politique iranienne vous expliquent même que ce poste de président auquel accède Ebrahim Raisi est un tremplin pour remplacer Ali Khamenei un jour. Ebrahim Raisi, on l'a dit, il est relativement jeune, 60 ans. Il est dans les rouages du pouvoir depuis le début de la révolution iranienne. À 20 ans, il s'est retrouvé propulsé procureur général de Karaj, qui est une ville qui se trouve juste à côté de Téhéran, la capitale. Il a fait sa carrière dans la justice, système judiciaire, procureur général de Téhéran, notamment de 1989 à 1994. Il sera ensuite chef adjoint de l'autorité judiciaire de 2004 à 2014, année où il a été nommé procureur général du pays, avant de devenir chef de l'autorité judiciaire, tout en haut donc du système judiciaire. Ebrahim Raisi n'est pas un tendre, il incarne l'ordre, la fermeté, la justice. Lorsqu'il était procureur adjoint du tribunal révolutionnaire de Téhéran en 1988, il a fait partie de ceux qui ont ordonné des exécutions massives de détenus arrêtés, incarcérés parce que jugés de gauche ou marxistes. Ibrahim Raisi, qui est aujourd'hui marié, hein, une professeure de sciences de l'éducation, il a deux filles. Ibrahim Raisi dément avoir joué un rôle de premier plan dans cette épuration de 1988, mais ses détracteurs rappellent qu'il faisait bien partie à ce moment-là des quatre juges qui se sont prononcés sur la vie ou la mort de milliers de prisonniers politiques.
Et à quoi peut-on s'attendre? Quelle politique va-t-il mener?
Bien, il a fait campagne, Ibrahim Raisi, en affirmant qu'il allait lutter contre la corruption, qu'il allait défendre les classes populaires. Mais quand vous avez un électeur sur deux seulement sur les 60 millions de votants potentiels, hein, dans ce pays qui compte en tout 82 millions d'habitants, un électeur sur deux seulement qui se déplace pour aller voter, cela montre bien tout le discrédit de la classe politique iranienne. Hassan Rouhani, qui a fait deux mandats et qui politiquement était considéré comme un modéré, n'a pas réussi à répondre aux attentes de la population, le marasme économique, l'inflation, hein, les prix qui s'envolent et un pouvoir d'achat toujours plus réduit pour la population. Hassan Rouhani avait comme objectif d'ouvrir l'Iran sur l'extérieur avec l'accord sur le programme nucléaire qui a été signé avec la communauté internationale, mais cette politique finalement a échoué avec la décision des États-Unis, de Donald Trump, en 2018, de se retirer de cet accord et de rétablir des sanctions économiques contre l'Iran, notamment ses exportations d'hydrocarbures. La population iranienne en a durement souffert. Cette colère s'est exprimée dans la rue, des manifestations qui ont été durement réprimées par les autorités. Et c'est ce pays-là que récupère, hein, en quelque sorte, Ibrahim Raisi, qui prendra ses fonctions officiellement en août prochain, même s'il vient tout juste d'être élu. Alors, quelle sera sa politique vis-à-vis des États-Unis? Va-t-il réussir, lui, l'ultra-conservateur, à renouer le dialogue avec celui qui a succédé à la Maison-Blanche à Donald Trump, Joe Biden? Ce sera assurément l'une des clés de son mandat, s'il veut obtenir la fin des sanctions économiques américaines, collaborer pleinement et en toute transparence sur les activités nucléaires que mène l'Iran. Ibrahim Raisi et sa barbe poivre-sel, ses petites lunettes, quelle sera sa marge de manœuvre, hein, on l'a dit, avec au-dessus de lui le guide suprême Ali Khamenei. Comment répondre à l'attente de la jeunesse iranienne, la République islamique d'Iran, qui est à la croisée des chemins avec donc un nouveau président, Ibrahim Raisi.
Merci à vous, Émile. Bonne journée. À bientôt. Dans l'état du Victoria, les Africains ne représentent que 0,5% de la population de l'état, mais 19% des détenus. Un problème de délinquance et de discrimination subi par les Africains australiens de Melbourne. C'est un reportage de notre collègue Grégory Pless.
Bonjour à toutes et à tous. Dans cet épisode, on va s'intéresser à la communauté africaine d'Australie. Il s'agit d'une vague d'immigration relativement récente et qui reste très limitée, puisque d'après le dernier recensement effectué en 2016, 380 000 personnes sont originaires du continent africain. Ceci étant dit, la taille de cette communauté s'est considérablement élargie ces 15 dernières années, puisqu'il n'était que 250 000 en 2006. C'est le résultat, entre autres, de l'arrivée de nombreux réfugiés ces dernières années, notamment des Soudanais et des Sud-Soudanais, pour qui l'intégration en Australie n'est pas toujours évidente. C'est particulièrement vrai dans l'état du Victoria, où d'après des informations publiées récemment, les Africains représentent 19% de la population carcérale, pour seulement 0,5% de la population. D'après les données officielles des services de police dans cet état, seulement 1% des crimes et délits commis dans le Victoria ont pour auteur des personnes ayant des origines africaines. Les mêmes données révèlent néanmoins une surreprésentation des Soudanais parmi les auteurs de crimes contre la personne, comme par exemple les vols ou les cambriolages. Mais pour Noël Zia Bamwe de l'African Australian Advocacy Center, la source de cette délinquance bien réelle est avant tout sociale.
Ça n'a rien à voir avec le pays d'origine. La délinquance, il peut y avoir la délinquance, il y a la délinquance par exemple, à cause de certains problèmes sociaux que nous connaissons très bien. Il y a un problème, par exemple, il y a un chômage, il y a un problème de santé mentale que ce qu'on appelle en anglais trauma ou bien PTSD. Alors, il y a aussi un problème de rupture de la famille. La famille vient ici, comme ça, ils se séparent. Il y a aussi des engagements scolaires. Alors, il y a beaucoup de problèmes. Mais le problème que je peux parler, que je connais bien, c'est le chômage. Ces jeunes-là finissent à l'aile scolaire, à l'aile secondaire. Ils veulent trouver un boulot, ils veulent travailler. Ils veulent vivre indépendamment, mais ils ne peuvent pas trouver un boulot parce que quelquefois, s'ils sont embauchés, ils sont discriminés.
Des discriminations expérimentées sur le marché du travail, mais aussi, à vrai dire, dans tous les aspects de la vie sociale, même les plus banales. Comme par exemple, au moment d'aller faire les courses, c'est ce que raconte Mariam Kosli. Elle est éducatrice de quartier bénévole et basée à Melbourne.
I would say if a black person hasn't been followed by someone in a store... In Australia, well then, the store owner must be blind. This is the only reason, because black people are 99.9% of the time, they're accused guilty before they're accused innocent.
Un climat de suspicion permanente qui, d'après Mariam, rend plus difficile encore l'adaptation à un nouveau cadre de vie dans un nouveau pays et une culture totalement différente.
Everyone has challenge in settling into a new environment. But what happens when that new environment doesn't want you? And secondly, what happens when you know that environment doesn't want you, but no one ever says it? No one ever to your face says, you're black, we don't want you here.
Et ce sentiment de rejet, il n'a jamais été aussi fort que depuis 2016. À l'issue d'un fait divers bien réel au cours duquel plusieurs jeunes Soudanais se sont battus en marge d'un festival, une partie de la presse australienne a monté cette affaire en épingle, prétendant que les rues de Melbourne étaient désormais tenues par des gangs africains. Une exagération grossière reprise par certains politiciens, c'est ce que rappelle Noël Zia Bamwe.
Il y a beaucoup d'articles qui ont été publiés. Mais quand vous voyez ces articles publiés par certains médias, moi je dis que certains médias, parce que ce n'est pas tous les médias, ces articles ont publié pendant les élections. Alors, je peux dire que les médias enflamment la situation avec des titres sensationnalistes. Les politiciens aussi, par exemple Peter Dutton, avait dit que la population du Melbourne avait peur de sortir au restaurant, parce qu'ils sont terrorisés par des gangs africains. Il n'y a pas de preuves.
Et c'est donc ce contexte délétère qui, sans l'excuser, explique en partie les problèmes de délinquance qui frappent une partie de la communauté africaine à Melbourne, mais aussi la discrimination qu'elle subit vis-à-vis de la police. Alors comment sortir de cette situation ? Pour Mariam Kosli, il faut tout simplement qu'il y ait davantage d'échanges entre la communauté africaine d'un côté et la police de l'autre.
Police officers generally, law enforcement generally, I think should be more visible to the community. And I think there should be more police officers talking or trying to understand black people in black neighborhoods. I think there should be more visibility, period. But what I would like to say is there should be more black police officers. If there are more black police officers, then you're more able to chip at the culture of the police force.
Noël Ziabamoué plaide aussi pour la mise en place de programmes associant davantage la police à la jeunesse africaine et il appelle pour cela le Victoria à prendre exemple sur ce qui se fait déjà en Nouvelle-Galles du Sud.
Il y a des programmes, par exemple, que la police de New South Wales a implémenté pour faciliter les jeunes gens, surtout qui sont nouveaux, qui sont d'origine africaine ou bien du Moyen-Orient, pour qu'ils puissent travailler ensemble avec la police. Alors, ces programmes-là sont donnés dans les centres qu'on appelle PCOIC. Alors, ils donnent l'encadrement aux jeunes gens pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'ils veulent être dans le futur. Alors, c'est ce que je voulais partager avec les gens de Victoria parce que ça travaille ici et ça donne de fruits ici à New South Wales.
Depuis 2018, l'État du Victoria dispose d'un plan d'action visant à mieux intégrer les communautés africaines, un programme qui inclut une série d'objectifs touchant à l'emploi, l'éducation, l'inclusion ou encore à la santé. Mais depuis quelques mois, il a été considérablement ralenti à cause du coronavirus.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Et voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est mardi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Bonne fin d'après-midi, bon appétit si vous êtes à table. À bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.